l'écoute des RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
Loïc Bussière.
L'heure de votre journal en français facile, journal que je vous présente en l'excellente compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous.
À la une ce soir, l'état de santé d'Alexeï Navalny qui inquiète ses soutiens. L'opposant russe, emprisonné depuis le début du mois de janvier, est en grève de la faim.
Le climat qui se dégrade au Pakistan, nouvelle manifestation anti-France ce dimanche, sur fond de droit de publier les caricatures de Mahomet. Des policiers ont été pris en otage lors de ces rassemblements. Nous irons à Islamabad dans quelques instants.
Et puis nous nous rendrons au Chili également dans cette édition. Le Chili où des algues toxiques ont tué près de 6000 tonnes de saumon d'élevage. Le récit dans un instant de notre correspondante à Santiago.
Le journal en français facile.
Et tout d'abord, l'inquiétude des partisans d'Alexeï Navalny. Les proches de l'opposant russe craignent pour sa santé.
Ils affirment que ses jours sont comptés si Moscou n'accède pas à sa demande. Alexeï Navalny, emprisonné depuis le mois de janvier, exige de voir un médecin. Et c'est pour cela qu'il s'est mis en grève de la faim, Anastasia Becchio.
Quatre médecins russes qui affirment suivre l'opposant depuis des années demandent à pouvoir l'examiner et lui prodiguer le cas échéant les soins dont il a besoin. Leur lettre ouverte au directeur des services pénitentiaires est publiée sur le site de Novaya Gazeta. Parmi les signataires, Anastasia Vassilieva, présentée comme le médecin personnel d'Alexeï Navalny. Sur sa page Facebook, elle a publié les résultats des analyses sanguines de l'opposant en prévenant « sans intervention médicale, Alexeï Navalny peut mourir ». Les examens montrent un niveau de concentration de potassium dans le sang qui a atteint un niveau critique, ce qui signifie à la fois une fonction rénale altérée et de graves problèmes de rythme cardiaque qui peuvent survenir d'une minute à l'autre, indiquent les médecins. Le cardiologue Alexeï Erlich, lui aussi signataire de la lettre, prévient que le nourrir de force pourrait compliquer encore plus les choses. Je ne sais pas qui décide du sort d'Alexeï Navalny, les services pénitentiaires, l'administration présidentielle ou Vladimir Poutine en personne, mais il faut une décision aujourd'hui même, souligne le médecin dans son blog, publié sur le site de la radio Écho de Moscou. Dans une adresse au président russe, une dizaine de députés de parlements locaux expriment la même requête et dénoncent des actions guidées par des motifs de haine personnelle et politique.
Anastasia Becchio et les proches d'Alexeï Navalny appellent à manifester mercredi prochain sur toutes les places centrales des grandes villes de Russie. De son côté, le président américain Joe Biden avertit qu'il y aura, je cite, des conséquences pour Moscou si Alexeï Navalny venait à mourir en prison. Les chefs de la diplomatie de l'Union européenne doivent par ailleurs se réunir autour de ce dossier.
La Russie, qui est également montrée du doigt par la communauté internationale pour sa position vis-à-vis de l'Ukraine et ses dizaines de soldats déployés près de la frontière avec la Crimée.
Il faut des lignes rouges claires avec Moscou, insiste ce dimanche Emmanuel Macron dans une interview à la chaîne américaine CBS. Le président français qui brandit la menace de possibles sanctions. Elles ne suffisent pas en soi, mais c'est le seul moyen d'être crédible, explique-t-il.
Et puis dans l'actualité du monde, c'est aussi cet hommage national aux 80 000 morts du Covid-19 en Allemagne.
À l'initiative du président allemand Frank-Walter Steinmeier qui appelle son pays à l'unité face aux divisions que suscitent les restrictions imposées par Angela Merkel. Des manifestations anti-masques ont encore rassemblé plusieurs milliers de personnes dans plusieurs villes allemandes ce week-end.
Toujours concernant le Covid-19 en France, une quarantaine obligatoire pour les voyageurs en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud.
Et la mesure concerne également les voyageurs de retour de Guyane qui devront désormais se soumettre à un isolement de 10 jours. Paris compte ainsi limiter les effets du variant brésilien du Covid réputé plus contagieux et plus dangereux.
En Inde, la situation sanitaire inquiète également au plus haut point avec plus de 260 000 nouveaux cas détectés hier. La pandémie explose comme jamais.
Et pourtant, plus d'un million de personnes ont déjà participé au festival de Kumbh Mela. Des meetings avec des foules monstres sont aussi organisés par le Premier ministre dans le cadre des élections législatives au Bengale. Alors pourquoi Narendra Modi s'entête-t-il à tenir ces rassemblements? Quelles répercussions cette attitude peut-elle avoir pour le parti BJP? Siddharth Bhatia est cofondateur et rédacteur en chef du média indépendant The Wire.
So it is obvious Il est évident qu'au vu du nombre de fidèles et de leaders spirituels qui participent à ces festivités, le parti BJP ne peut pas ignorer cette manne électorale hindoue. L'ironie, c'est qu'ils ne l'ont pas seulement autorisé, mais encouragé. Il y a eu des pubs géantes dans les journaux qui disaient « Bienvenue à la Kumbh Mela », le tout sans rappeler aucune des précautions. Et ça, c'est criminel. Par ailleurs, les élections au Bengale sont cruciales pour le BJP. Personne n'a envisagé de ne pas tenir de meeting ou même de limiter leur taille. Narendra Modi est très performant lors de ses discours. Et plus ils sont nombreux, plus les télés vont le diffuser. Le Premier ministre et son parti sont aujourd'hui pris à leur propre piège. Tout le monde pensait que l'effondrement de l'économie en Inde porterait atteinte à la popularité de Narendra Modi. Mais ça n'a pas encore été le cas. Mais cet épisode est plus dangereux. Si les personnes qui ont participé à ces rassemblements meurent et contaminent leur entourage, la population va le tenir responsable. Et cela va affecter son image. Reste à savoir à quel point.
Dans les propos de Siddharth Bhatia, rédacteur en chef du média indépendant The Wire, propos recueillis par Com Bastin.
Il est 1h06 à Islamabad, au Pakistan. La tension monte entre le TLP et le gouvernement.
Le TLP, c'est le Terek El Abaik, un parti islamiste radical qui dirige depuis plusieurs jours des manifestations anti-France. Ce dimanche, lors d'un de ces rassemblements, au moins 12 membres des forces de sécurité pakistanais ont été pris en otage à Lahore. Sur place, les précisions de Sonia Ghezali.
Les informations sont très confuses. La police affirme que plusieurs policiers ont été pris en otage aujourd'hui par des militants du TLP, le Terek El Abaik. Ces derniers auraient tenté ce matin de s'emparer d'un commissariat de police de Lahore dans l'est du pays où ils auraient kidnappé des policiers, 12 selon certaines sources sécuritaires. Ce soir, le ministre de l'Information affirme que la situation est sous contrôle. Il indique qu'une opération d'envergure menée contre le QG de l'organisation extrémiste, située dans une école religieuse à proximité du commissariat de police pris pour cible, a permis de libérer les otages. Sur une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on voit un policier, le visage bandé, taché de sang, l'air hagard, raconter avoir été pris pour cible par une foule de manifestants alors qu'il intervenait contre l'assaut du commissariat de police. Certaines sources sécuritaires affirment que certains policiers sont toujours retenus en otage au sein de la madrassa. Information démentie par le ministère de l'Information. Difficile de démêler le vrai du faux. Les militants du TLP restent très mobilisés. Leur chef a été arrêté en début de semaine. Le parti a été banni il y a quelques jours par les autorités pakistanaises. Le TLP exige que l'ambassadeur de France quitte le Pakistan en représailles aux propos d'Emmanuel Macron en octobre dernier qui a défendu le droit à la caricature. Sonia Ghezali, Islamabad, RFI.
En bref, le chef de l'opposition israélienne appelle à la formation d'un gouvernement d'union.
Yair Lapid qui veut éviter un cinquième scrutin législatif en 2 ans alors que Benjamin Netanyahou tente en vain de rallier l'extrême droite et les islamistes pour se maintenir au pouvoir. Élu le mois dernier mais sans majorité, il n'a toujours pas formé son gouvernement.
En Égypte, au moins 11 personnes tuées dans le déraillement d'un train au nord du Caire.
Trois semaines plus tôt, une collision entre deux trains avait endeuillé le pays. Ce dimanche, ce sont 8 wagons qui se rendaient dans le nord du pays qui ont déraillé, faisant également une centaine de blessés. Puis on se rend au Chili pour refermer cette édition. Le Chili, où près de 5800 tonnes de saumon d'élevage sont morts asphyxiés après la prolifération d'algues toxiques dans plusieurs fjords du sud du pays. Et les précisions à Santiago de notre correspondante Justine Fontaine.
De grandes étendues brunes sur l'eau de plusieurs fjords. Voici à quoi ressemblent les épisodes de prolifération d'algues nocives observées dans le nord de la Patagonie chilienne depuis fin mars. Lisbeth van der Meer est directrice de l'ONG Oceana, qui milite pour la protection des milieux marins.
On observe plus fréquemment qu'avant des épisodes de floraison d'algues nocives. C'est à cause du changement climatique, c'est-à-dire qu'il y a des périodes de température élevée combinées à de faibles pluies et puis des apports importants de nutriments, comme ceux de la salmoniculture parmi d'autres.
Parmi les lieux concernés cette fois-ci, le fjord de Comau, qui abrite un rare récif corallien d'eau froide proche de la surface. Vrenia Osserman est chercheuse à l'Université Saint-Sébastien. Elle craint que ces algues toxiques affectent la biodiversité du fjord.
Les algues en question, après avoir proliféré, meurent et se décomposent dans l'eau, ce qui réduit fortement la quantité d'oxygène disponible. Cela peut avoir des conséquences néfastes pour la faune marine et ils peuvent même en mourir.
Pour elle, le seul facteur sur lequel le Chili peut agir aujourd'hui pour tenter d'éviter la prolifération de ces algues serait de mettre un terme aux élevages de saumon industriel dans ce fjord. Justine Fontaine, Santiago, RFI.
Et c'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi et de votre fidélité à RFI.